bien, nous allons commencer. Il fait heureusement assez chaud, ce qui actuellement est appréciable, surtout quand on parle en partie au moins de l'Italie. Et je vous salue pour ce dernier séminaire qui concerne donc un thème qui s'inscrit un peu dans ce que nous avons fait au cours, reprendre... corriger, repenser, compléter, ajouter d'autres éléments au dossier que nous avions ouvert non seulement ici, mais même auparavant dans tous les domaines possibles. Et donc, il nous a paru, c'était une idée d'Olivier de Casanova, qui était le maître de maison de ce colloque que vous voyez derrière moi il y a 20 ans, qui m'a dit ça serait une bonne idée d'ouvrir aussi de nouveau un peu ce dossier et voir ce qu'on peut encore en dire nous, et puis le confronter à trois expériences plus récentes qui enfin commencent à nous faire entrer dans le domaine de l'archéologie, de ce genre de lieux de culte que sont les bois sacrés, qui sont quelque chose de relativement... mystérieux, si vous voulez, et toujours différent. Donc, nous commencerons, vous avez le programme, nous commencerons par Rome et l'Italie, et nous continuerons ensuite par trois expériences en Italie du Nord et en Gaule. Voilà. Et je laisse au maître de maison de l'époque le droit de commencer ce colloque.
De l'époque. Merci, John. Voilà, donc vous avez sous les yeux la couverture de ce colloque, un colloque qui s'est tenu à Naples sur les bois sacrés. Et John Scheid disait que cela faisait 20 ans qu'il avait été organisé. En réalité, ça fait un peu plus. C'est plus de 26 ans au Centre Jean Bérard, dont j'étais alors directeur. Il a été organisé exactement en novembre 1989. Mais en fait, il a été publié 4 ans après, en 1993. C'était une rencontre qui était évidemment conçue autour du travail de John Scheid sur les Arvales et sur le bois sacré de Adia, au 5e mille de la Via Campana, dont il avait commencé la fouille en 1975 avec la complicité d'Henri Broise. Tandis que la thèse d'État de John Scheid, Romulus et ses frères, sortait en 1990 dans la Béfar. Le dessin de ce colloque était également, au-delà de cette étude de cas et de quelques autres dans le Latium sur lesquels je reviendrai, étude de cas dans le Latium et en Campanie, de faire également sa place à un comparatisme raisonné. Des faits grecs autour du concept d'Alsos, des faits gaulois et germains, avec entre autres une communication de Jean-Louis Bruno, c'est sur les sanctuaires de Picardie, c'était un peu la première fois qu'on entendait parler de ça en Italie, et là encore une fois, John Scheid a servi de passeur entre des mondes scientifiques différents, et puis aussi des faits africains. Donc un comparatisme raisonné dans ce colloque, attentif aux différences autant qu'aux ressemblances, pour mieux nous démarquer d'œuvres célèbres, mais scientifiquement dépassées. Et en fait, ce colloque dont nous commémorons l'anniversaire était lui-même conçu pour faire écho à 100 ans de distance. Alors, 100 ans de distance ou presque, puisque la première édition du Rameau d'or de Fraser était parue en 1890, cette première édition en 2 volumes. Comme nous le rappelions dans la préface des actes de notre rencontre, le Rameau d'or de Fraser débute et s'achève dans un bois sacré, celui de Diane à Némi. La figure du roi du bois de Némi, du Nerex Nemorensis, cet esclave fugitif qui tuait son prédécesseur avant d'être à son tour tué par plus fort que lui, sert en quelque sorte de fil conducteur à Fraser dans son entreprisme de comparatisme généralisé. Mais cela, comme l'a bien montré Mary Bird dans le colloque dans le volume de 1993, au prix de toute une série d'équivalences périlleuses et en fait inadmissibles. La branche que cueille le prétendant au sacerdoce de Némi serait identique au rameau d'or que cueille Énée sur les conseils de la Sibylle de Cumes avant de descendre aux enfers, et le rameau d'or virgilien serait en fait une touffe de gui. Au bout du compte, vous voyez, avec toutes ces passerelles extrêmement périlleuses, Fraser peut mettre en relation les mythes gréco-romains avec les Eddas nordiques, la figure d'Énée avec celle de Balder le Magnifique, tué par un rameau de gui. Ces glissements sont d'ailleurs évidents déjà dans les choix visuels, si j'ose dire, de Fraser. Puisqu'il choisit d'ouvrir son œuvre par l'évocation du très célèbre tableau homonyme de Turner, qui a fourni la couverture de notre colloque, alors que, bien sûr, le tableau de Turner ne représente pas le bois de Némi, mais le lac Averne, l'entrée des enfers et la Sibylle qui vient de cueillir avec sa faucille le rameau d'or. Et puis, autre choix visuel, puisque Fraser avait commandé spécialement à John Henry Middleton, le directeur du Fitzwilliam Museum, la couverture, n'est-ce pas, une touffe de gui dorée en lieu et place du rameau d'or virgilien. Dans notre colloque de 1989, il a à nouveau été question, mais pour rejeter fermement cette hypothèse, de culte des arbres, d'indolâtrie, de Baumkultus, pour le dire comme Bettischer. Mais en fait, le débat qui a été vivace de l'aveu même des participants, John Scheid s'en souvient, et j'en ai moi aussi gardé un souvenir très net, s'est cristallisé sur un autre point. Deux conceptions de ce qu'est un bois sacré, un lucus, dans l'Antiquité romaine, se sont affrontées. D'une part, pour John Scheid, mais il le dira mieux que moi, il s'agit d'un type particulier de sanctuaire, naturel, à l'origine différent des lieux de culte créés et dédicacés par l'homme. Pour Filippo Coarelli, au contraire, puisque le débat s'est beaucoup cristallisé entre eux deux, le lucus n'est pas autre chose que le sanctuaire lui-même, et plus exactement le sanctuaire extra-urbain, tandis que le templum, et je cite Coarelli en le traduisant, le templum est le correspondant exact du lucus à l'intérieur de l'aire urbaine. À la délimitation du templum in terris, avec des arbres sur son pourtour, selon une définition fameuse de Varron, répondrait ainsi, dans la campagne, la clairière entourée d'arbres, comme forme première, originelle du sanctuaire. Cette conception évolutionniste du lieu de culte, comme l'endroit que l'on défriche dans la sylve primordiale pour y établir la demeure du dieu, a marqué en profondeur les études postérieures, spécialement en Italie. Il suffit de renvoyer, par exemple, à l'image que Paolo Brocato et Andrea Carandini proposent du lieu de culte de Jupiter Feretrius sur le Capitole, fondé par Romulus. Tous les éléments, vous le voyez dans cette image, sont présents. La clairière défrichée, les troncs d'arbres aux angles, l'arbre sacré derrière la cabane-temple auquel sont suspendues les dépouilles opimes d'Acron, dans une vision très romantique de la religion romaine primitive. Je rappellerai à ce propos que Filippo Coarelli avait publié 2 ans avant, en 1987, un livre sur les sanctuaires du Latium qui reprenait en partie des articles déjà publiés, sauf le premier et le dernier chapitre consacrés respectivement à Gabii et au Nemus Aricinum. Dans ceci, et surtout dans le premier, donc, dans le chapitre sur Gabii, il développait déjà avec force et plus en détail que dans le colloque de 1989, la même argumentation. J'en extrais une citation particulièrement claire à cet égard que je peux traduire. La perception originelle du sanctuaire dans la religion italique la plus ancienne coïncide donc avec celle d'une clairière retaillée dans un bois qui traduit le terme latin « lucus ». Et cela explique pourquoi, la raison pour laquelle ce dernier terme finit par désigner le sanctuaire à côté du terme plus générique de fanum. Et c'est le cas de lieux de culte célèbres comme le Lucus Angitiae, le Lucus Feroniae et le Lucus Dianae à Nemi. Filippo Coarelli était ainsi amené à aborder un problème qui est, à mon sens, effectivement crucial, celui de la manière dont on exprime, ou bien on n'exprime pas, en latin, le concept de sanctuaire tel que les modernes l'entendent, c'est-à-dire le lieu de culte dans sa globalité, qui comprend à la fois le temple, s'il existe, qui n'est pas indispensable, son parvis, l'area du temple, l'autel, d'éventuelles annexes et le terrain sur lequel elles s'élèvent, et enfin le mur de clôture. En réalité, ni templum, ni fanum, sauf quelques occurrences, ni d'ailleurs lucus, ne paraissent avoir servi à désigner couramment cette réalité englobante. S'il en allait autrement, on s'attendrait à ce que n'importe quel lieu de culte puisse être qualifié de lucus de tel dieu, de tel ou tel dieu, de fanum de tel ou tel dieu, ce qui n'est pas le cas. Ces termes, et surtout lucus, restent d'un usage limité et ne sont pas interchangeables. Par exemple, lucus ne figure pas dans la trilogie bien connue Fala Templa Delubra de la loi d'Urso. Et il faut donc en revenir à l'idée que lucus est une catégorie particulière de lieu de culte et non le sanctuaire en général. On peut aller d'ailleurs plus loin. S'il n'existe pas en latin de terme qui rende ce que nous appelons un sanctuaire, on peut alors se demander si celui-ci n'est pas un concept purement moderne. On peut au moins observer que les dédicaces latines procèdent par juxtaposition pour énumérer les éléments qui sont constitutifs à nos yeux d'un sanctuaire. Par exemple, dans deux inscriptions, justement citées par Filippo Coarelli dans le même article, une d'Afrique proconsulaire et l'autre du Vallo di Diano, celle d'Anzia Rufa, fille de Tarvus, que vous avez sous les yeux. Ces difficultés d'interprétation étant bien réelles, c'est finalement à l'archéologie que l'on va demander de faire voir ce qu'était matériellement un bois sacré. L'article de Filippo Coarelli dans le colloque de 1989 s'intitulait justement « I luci del Lazio, la documentazione archeologica », les bois sacrés du Latium, la documentation archéologique. Et il s'appuie essentiellement sur un dossier qui avait été davantage développé dans la monographie de 1987, celui du temple de Junon à Gaby. Les fouilles espagnoles avaient été publiées quelques années auparavant, en 1982, vous avez la couverture sous les yeux. Elles avaient révélé l'existence d'une double série de cavités carrées, creusées dans la roche, entre le temple et le portique qui l'enserre. Elles avaient été interprétées pour la première fois par Lauter en 1968 comme les fosses de plantation d'un jardin de temple, d'un temple garden, qui aurait eu deux phases. D'où le décalage et les différences de dimension entre les deux séries, c'est particulièrement le plan pierre à pierre que vous voyez à droite. L'équipe d'Almagro Gorbea, dans sa publication de 1982, s'en tient à cette interprétation et propose une série de parallèles, les Phaisteion d'Athènes, le portique de Pompée ou encore le temple de la paix à Rome. C'est à Filippo Coarelli que l'on doit l'interprétation de ce dispositif comme celui d'un bois sacré, avec l'idée supplémentaire que la cavité contre... Alors, c'est ça ? Que la cavité ici, contre le centre du mur du fond du temple, serait destinée à un arbre spécial, un arbre sacré. On comprend néanmoins pourquoi l'auteur d'abord et l'équipe espagnole ensuite s'en sont tenus à l'interprétation de cet espace comme d'un jardin. Les dimensions des fosses de plantation conviennent mieux à des arbustes, à des arbres, 1,50 m par 1,60 m pour la première série, datable vers 160-150 avant Jésus-Christ, 1,20 m, 1,30 m pour la deuxième, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Rappelons qu'aujourd'hui, pour une fosse de plantation d'arbres en ville, un carré de 2 mètres de côté est considéré comme un minimum. Rappelons aussi que le temple de Junon culminait à une quinzaine de mètres de hauteur et devait donc écraser de sa masse ces modestes arbustes. Le problème des dimensions est plus évident encore pour un autre bois sacré supposé, celui du temple de Vénus à Pompéi. Les fouilles d'une équipe anglaise ont mis au jour, devant la colonnade du portique et le caniveau qui la longeait, ici et là, des fosses alternativement vides ou bien remplies de pots au fond percé. Les pots sont de deux types, comme vous le voyez par ces profils, 16-17 cm ou 19 cm de haut. Les fosses étaient espacées de 1 mètre en moyenne, probablement une devant chaque colonne et une pour chaque entrecolonnement. Il est incontestable qu'il s'agit de pots pour les plantes, comme le montre bien le fait qu'elles sont forées, que ces pots sont forées. Peut-on pour autant parler de bois sacré, de sacred grove, comme le fait continuellement Maureen Carroll? Elle ne parle certes que de petits arbres, des myrtes, des lauriers, des citronniers, mais il faut préciser qu'il n'y a pas de résultat d'analyse paléobotanique. Mais même ainsi, il semble qu'on a davantage affaire à un jardin, d'ailleurs limité à une rangée de plantes le long du portique, qu'à un bosquet. En définitive, la prudence s'impose avant de voir des bois sacrés partout et de vouloir en repérer à toute force les attestations archéologiques. Positivement, avec les fosses de plantation, ou négativement, lorsqu'un espace vide est attesté dans un sanctuaire, et ce serait tout un autre dossier, mais que je n'ai pas le temps de développer. Les cas d'étude dont il sera question en cette matinée apparaîtront d'autant plus incontestables qu'on ne cherchera pas à multiplier indûment les attestations douteuses. Je voudrais terminer par un autre lieu de culte qui est progressivement devenu, dans la bibliographie spécialisée, un lucus, et cela sans fondement, comme on va le voir. Il s'agit des offrandes trouvées à Pesaro, Pisaurum, dans un lieu de culte qu'on appelle couramment le Lucus Pisaurensis. Cette appellation est due au premier érudit qui s'en est occupé, Annibale Olivieri, mais elle ne repose sur aucun texte littéraire. Toutefois, une inscription sur ce qu'il appelle un petit cip a été lue par Peruzzi comme Lucicoiri, dans le lucus de Junon Curis. Et donc elle était incisée, nous allons le voir, sur ce qu'il interprète comme un cip de bornage. Un article récent dans la revue Picus vient de faire justice de cette interprétation. D'une part, pour l'un des auteurs, Francesco Belfiori, il s'agit d'une offrande de terre cuite, selon lui la partie inférieure d'un enfant emmailloté, ce qui pose d'autres problèmes, mais je ne peux pas y rentrer. D'autre part, pour l'autre auteur, Simone Cisani, le graffito peut comprendre ça. Alors, je vous ai présenté l'objet dans les deux sens, parce qu'on ne savait pas très bien dans quel sens le lire. Pour ma part, j'hésite à me prononcer sur l'identification de cette terre cuite qui me paraît assez atypique. Donc, pour Cisani, le graffito peu compréhensible et même, selon l'auteur, pour partie d'authenticité douteuse, renverrait tout aussi bien au prénom Lucius qu'au substantif Lucus. Exit donc le cip de bornage d'un bois sacré. D'ailleurs, la bonne description qu'en donne Francesco Belfiori et les dimensions qu'il donne rendent la chose assez invraisemblable, puisque l'objet en terre cuite n'a pas plus de 20 cm de haut. voilà, je pense qu'il faut réserver l'identification exacte de cet objet. Quoi qu'il en soit, il est probablement indu d'étiqueter comme locus le lieu de culte de Pesaro. Plus généralement, il importe de ne pas banaliser la catégorie et l'appellation de locus s'il n'y a pas de preuves archéologiques ou textuelles indubitables. Et je cède la parole à Jean.
Très bien. Donc, vous avez déjà entendu un certain nombre des arguments qui continuent, enfin, qui sont toujours en débat et dont vous entendrez encore parler, je crois, parce que, évidemment, tout le monde se bat avec quelques inscriptions, quelques thèmes. Et donc, ça montre aussi que c'est tout à fait justifié de revenir comme les mousquetaires 20 ans après. Depuis cette époque, des discussions ont eu lieu et vous savez déjà que c'est surtout entre moi et Filippo Coarelli et quand nous nous voyons, nous en reparlons. Ça, c'est une habitude, je ne suis pas terrifié par Filippo Coarelli comme beaucoup de collègues et lui, il m'écoute aussi un peu et donc je peux y retourner. Et on continuera certainement de nous exciter sur ce genre de questions. Attendez que je change de PowerPoint. Et pour ce que je ne vais pas répéter ce qui a été dit, j'entérine entièrement ce qu'Olivier a dit. Et ce qui maintenant est important, c'est d'examiner de nouveaux documents, comme nous le ferons au cours de cette matinée. Et je reviendrai uniquement sur deux points pour vous montrer que, malheureusement, l'interprétation de Coarelli ne tient pas. Elle est exagérée dans certains sens, même si elle n'est pas entièrement absurde. Et puis, je vous montrerai ce que ceux qui ont subi mes cours ont déjà vu, c'est-à-dire le retour sur le bois sacré des Arvals, qui a été un peu à l'origine de tout cela, mais très, très brièvement. Alors, pour Coarelli, vous l'avez entendu, un bois sacré est la clairière située dans un bois, et il signifie sanctuaire, tout simplement, entouré d'un bois. Or, il y a deux problèmes. D'une part, les exemples qu'il cite, comme celui de Gabi, bon, on n'a peut-être pas d'inscription, mais on ne le qualifie jamais de locus. C'est quand même un peu gênant. Et d'autre part, quand nous regardons la discussion qui nous a agités il y a plus de 20 ans, il n'interprète pas tout à fait correctement les textes. Je passe sur un élément de la discussion où nous avions raison tous les deux, si vous voulez. Je me fondais beaucoup sur un texte de Sénèque dans les histoires naturelles, les questions naturelles, où il décrit ce qu'est censé être dans la sensibilité des anciens un bois sacré, un étang sacré, une grotte sacrée. Et en gros, il met cela, il dit que c'est un lieu que la divinité s'est créé pour elle-même. C'est un beau texte, vous pouvez le relire dans le volume si ça vous amuse. Et je n'avais pas été assez précis, parce que pour moi, évidemment, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais à Rome. Un dieu qui se manifeste aux Romains n'est pas adopté immédiatement. On ne s'incline pas devant lui, on réunit le Sénat, on dit « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez inviter ce monsieur ou cette dame ?» Ensuite, on lui consacre un hôtel, un lieu, une place dans le calendrier, et c'est ensuite seulement qu'on l'accueille. Ça, c'est une constante permanente. On n'est pas dans l'épiphanie de type judéo-chrétienne. On est justement chez les gréco-romains. Donc là, c'est vrai. il ne suffit pas que quelqu'un voit la caverne ou tout ce que vous voulez pour dire « c'est un lieu sacré ». Non, il faut ensuite qu'il convoque les magistrats à Imperium qui consultent leur conseil et qui font une vraie consécration. Ça, c'est vrai. Mais notre désaccord le plus réel portait sur les quelques définitions ou passages qui parlaient de bois sacré. Il y en a un qui est célèbre et ça nous ramène à Némie. C'est un texte conservé par un grammairien prissien et qui est attribué, c'est un des fragments de Caton. Et le texte est très simple. Bon, il porte un nom Baibius que Peter, l'éditeur de ces fragments, a voulu corriger en Livius, mais apparemment personne ne l'a suivi. Et pour nous, ça n'a aucune sorte d'importance. Lucum Dianium in nemore Aricino egerius Baibius tusculanus dedicavit dictator Latinus. Donc, vous voyez l'exemple même où quelqu'un dédie un bois sacré. C'est exactement comme cela que ça se fait. Mais j'attire, et là c'est peut-être mon œil d'épigraphiste qui est un peu plus précis que celui d'un archéologue, même de la taille de Coarelli, quand on me dit le Lucus Dianius de Diane dans le Nemus d'Aricia, je ne peux pas assimiler le Nemus au Lucus. Le Lucus est quelque chose de particulier dans le Nemus. Pour lui, évidemment, pour Filippo, Nemus, ce sont les arbres avec le Lucus au milieu. Il y a quand même une propriété là qui est très importante, parce que d'un côté, c'est propriété divine, c'est sacer, comme nous dirons avec les pontifes, et de l'autre côté, c'est profane, ça appartient à la cité d'Aricie. Et si nous... il y a un autre passage, un autre passage qui est conservé par Paul Festus, qui parle de Lucum Nemorensem Dianae, c'est le Lucus Anemi, encore une fois la même chose, de Diane. Ça ne nous apprend rien sur la différence du Nemus parce que le paysage est devenu le site Nemorensis, celui du Nemus de quoi ? Aricie, c'est parce que là c'est Lucum Dianae. Lucum Nemorensem. Nemorensem est sans doute, même si Lucus est restitué, le site plutôt que la propriété. Mais il y a un passage que moi je continue de considérer très clair du grammairien Servius dans sa version augmentée, développée, où il donne la définition de ce qui nous intéresse. Et c'est la seule que nous ayons qui soit claire avec celle-là. Interest, il y a cette différence entre Nemus, Silva et Lucus, les trois ensembles constitués d'arbres. Lucus, en effet, est arborum multitudo, un nombre important d'arbres, cum religione, auquel est attachée une obligation religieuse. Nemus, vero, et le Nemus, au contraire, est une multitudo composita arborum, est une multitude d'arbres arrangés, c'est-à-dire cultivés. C'est une forêt de culture où on trace des lignes, etc. Et ça laisse penser qu'une multitudo, décidément, une multitudo est simplement un bois qui pousse librement, qui est sauvage, entre guillemets. Et ça correspond exactement à ce que dit Sénèque, qui dit un lucus, c'est un lieu au milieu de la guerre, c'est-à-dire où il y a des champs, où tout d'un coup il y a une sauvagerie touffue qui dépasse l'homme, etc. C'est tout à fait ça. Et enfin, silva diffusa ad inculta, la silva, c'est la même chose, une forêt non cultivée, c'est de nouveau la même chose, diffusa, qui se répand partout, et il n'y a pas de religio. Le bois en tant que tel, la forêt vierge, comme que nous aurions tendance, avec notre arrière-plan romantique, à considérer comme sacré, ne l'est pas du tout.
c'est la brousse, c'est quelque chose d'horrible. Et il faudra attendre 1802 pour que les Européens commencent à trouver ça beau. À l'époque, on s'enfuyait quand on voyait les Alpes ou ce genre de choses. Mais avec le romantisme, on commence à découvrir cela. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le lucus est une arborum multitudo cum religione. Eh bien, c'est exactement ce qu'exprime ce texte. C'est le lucus consacré à Diane dans la forêt, le parc ou la forêt de rapport de la cité d'Aricia. Et je crois que je ne change pas d'opinion parce que les textes, les seuls que nous ayons, sont clairs. Et ensuite, nous avons un témoignage dont je vous montrerai le plan tout à l'heure, qui sont les règlements des bois sacrés, qui nous apprennent un certain nombre de choses sur les qualités de ces endroits. C'est ce que nous démontrent ces documents que je vous ai réunis là, c'est que c'est l'intérieur d'un lucus qui est, à partir de son entrée, l'équivalent d'un espace sacaire. Donc, en ce sens, sans involontairement, Coarelli a raison quand il dit un lucus est l'équivalent d'un templum. Il n'est peut-être pas inauguré comme est un templum, mais il est consacré par la formule d'un magistrat, un imperium, comme un templum. Malheureusement, nous n'avons aucune trace de dédicace. Les protocoles des Arval nous apprennent uniquement, je vous montrerai ça avec le plan, que c'est avant le lucus que se trouve l'ara ante lucum, parce qu'il y a un autel devant le bois sacré sur lequel on doit sacrifier quand on pénètre dans le bois sacré pour des raisons cultuelles ou pour des raisons d'entretien, comme dans un temple, dans la cella d'un temple. Pas tout le portique, mais la cella, l'autel et la statue de culte. Ce sont les objets sacrés de ce que nous appelons un sanctuaire ou un temple. Et puis, nous n'entendons jamais parler d'entretien de ce bois sacré. Tout ce qu'on fait, nous savons qu'il y a parfois des travaux parce qu'il y a un incendie dans le bois sacré à cause d'un orage. Des arbres s'écroulent du fait de la neige, au mois de mars, je ne sais pas quelle année, sous Trajan, il y a des arbres qui sont tombés sous le poids de la neige, à Rome, ça existe. Ou enfin, le temple lui-même, qui est au cœur du lucus, peut avoir un figuier qui pousse sur le faîte et qu'il faut arracher. Alors, dès que vous faites cela, il y a des petits travaux de maintien. Là, vous devez faire des piacula, etc. Donc, nous savons que sur les trois siècles où nous avons ces protocoles, que s'ils avaient eu des opérations régulières d'entretien, nous le saurons. Or, ce qui est régulier, c'est chaque année, ils taillent sur des parois en marbre de ce lieu les protocoles des Arval, qui nous rendent si heureux. C'est déjà là, ils doivent faire des expiations à chaque fois parce qu'ils introduisent du fer dans le bois sacré, qui est un lieu sacré où aucun fer ne doit pénétrer, seul du bronze, littéralement. Et d'autre part, à cause des travaux qu'ils font à la même occasion pour mettre en place cette inscription ou la cimenter, la mieux la fixer, je ne sais pas. En tout cas, c'est uniquement pour l'exportation, l'importation du fer, scripturae causa, pour écrire. Jamais de l'entretien. Donc, ce n'est pas une, Festus Servius, une multitudo composita arborum. Compositus, c'est le culte, c'est de l'agriculture, c'est de la sylviculture. C'est les gardes forestiers, si vous voulez, qui sont en cause. Nous, c'est une multitude d'arbres qui poussent n'importe comment, si on le croise avec le texte de Sénèque, et qui a une obligation religieuse, c'est-à-dire qui est sacrée et liée forcément à un culte, à des arbres. Et on peut voir ça aussi dans d'autres documents. Vous pouvez le voir dans une aire, une place de Rome, c'est près du palais du président de la République, sur le Quirinal, on a trouvé un hôtel qui a été consacré sous Domitien et avec son règlement, sa lex dédicata, et elle précise entre autres que personne n'a le droit entre les bornes de cette place de construire un édifice, d'y rester, d'y faire commerce, de placer un arbre ou de semer autre chose. C'est-à-dire, c'est un espace totalement interdit aux activités mortelles, humaines. C'est uniquement l'espace de Vulcain. C'est un hôtel de Volcanus. C'est aux limites de l'incendie néronien. Même chose si nous allons en Italie, à Spolète, où il y a une série de deux inscriptions de bois sacré qui datent du moment où la colonie latine a été créée. Donc, que personne, et là nous avons Lucum, un Lucus, que personne ne viole ce bois sacré, ni en transporte à l'extérieur ou porte à l'extérieur ce qui appartient au Lucus, qu'il ne coupe pas d'arbres, donc il y a des arbres, si ce n'est le jour où la res divina annua fiet. Ces deux traits que Panchera met par et d'autres, c'est parce que le champ épigraphique était dépassé et le scribe a tapé le reste des lettres sur le côté de la plaque. Eo die, ce jour où la res divina se fait, c'est-à-dire on célèbre le culte en vertu de l'obligatio, de la religio, quod rei divina causa fiat, sine dolo cedre liceto. Et si ce jour-là où se fait le culte, et si c'est fait en raison du culte, on peut couper un arbre, et sans dol, sans mauvaise intention. Il faut du bois pour faire des sacrifices et des banquets sacrificiels. Les arvals, c'est strictement pareil. Un jour, un arbre est tombé, il faut une expiation, mais ils ont même consulté les pontifes, c'était assez au début, ce sont les premiers arbres qui tombent, et les pontifes disent que ça ne doit pas être exporté, il faut l'utiliser sans doute dans les sacrifices. Tout à fait banal, mais vous voyez, c'est tout à fait ce qu'on attendrait aussi d'un temple. À Lucerie, il y a un autre bois sacré, in hoc lucarit circus, alors que personne ne déverse dans ce bois sacré fumier, que personne ne jette un cadavre, ni ne fasse un rite funéraire, si quelqu'un a fait contre cette lex, etc., là viennent les punitions. Donc vous voyez que dans chaque cas, on choisit d'autres éléments, d'autres interdits. Il peut y en avoir d'autres, mais celle que nous avons conservée, c'est celle-là. Et c'est toujours la même chose, pas d'activité mortelle. On ne touche pas à la propriété du lieu, de l'air sacré, du bois sacré. On ne touche aux arbres, notamment, si ce n'est pour le service religieux. On ne met aucun contact avec la mort, parce que c'est les dieux. Et ensuite, on a à Fourfaux d'autres indications. Là, il s'agit d'un temple. Et vous voyez que c'est les mêmes règles. Il est autorisé de toucher, de sarcler, de couvrir, de déplacer, d'enfoncer, de rester, d'utiliser du fer, etc., liceat fasque esto. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi les choses qui concernent, dans ce cas-là, les objets qui sont donnés ad eam aedem à ce sanctuaire, qui sont donnés, officiellement remis et dédiés. On peut les utiliser et les vendre. Et quand ils seront vendus, ces objets, c'est considéré comme profane. venditio locatio aedilis esto, et que c'est les édiles de l'endroit qui s'occupent de l'affermage ou enfin de la location ou de la vente. Et puis viennent aussi des règles sur l'argent donné au sanctuaire, avec la règle très intéressante que ce qui est acheté avec l'argent, qui est le produit des dons faits au temple, n'est pas sacer, puisque c'est profanum, ça circule entre les mortels, ça sert aux mortels, mais c'est considéré quasi si dedicatum sit. C'est considéré comme quasi sacer. C'est toujours le vieux régime juridique de la fiction juridique. Par exemple, dans les provinces de l'Empire, on ne pouvait pas consacrer aux dieux romains. Eh bien, les juristes ont développé un raisonnement où on peut quand même consacrer, et l'objet en question est quasi sacer. Enfin, c'est un. Dario Mantovani a beaucoup parlé de cela, et Cliff Ando encore plus. Voilà. En pays grec, vous pouvez, si vous voulez, comparer pour des espaces sacrés les mêmes choses. Il est interdit de jeter de la terre, des cendres et autres immondices sur un terrain touchant au sanctuaire ou à l'autel de Dionysos. Donc les humains n'ont pas à mettre leurs ordures sur cet endroit. Le fumier fait par les victimes, je suppose, doit rester sur place. Le guano peut être vendu en réalité puisqu'il est tombé d'en haut, je suppose. Voilà, pour tenir un téménos propre, il faut toujours se purifier avec de l'eau. Et chaque fois qu'on pénètre dans un téménos ou dans un bois sacré, on se lave. Les Arvales avaient même tout un bain à leur disposition, parce qu'un sénateur, il ne va pas à une bouche d'eau en fonte, il a besoin de ça, de tout un bâtiment thermal qui sert une fois dans l'année, hein. C'est les sénateurs. Alors, vous voyez, les dernières découvertes qu'on a faites, on était embêtés par cet espace-ci, c'est le bois sacré des Arvales, tout ça, et nous savions que ceci, le portique avec les pavillons des Arvales, leurs termes qui sont mentionnés dans les procès-verbaux, se trouvaient en bas de la pente, à cet endroit. Nous savions que le temple était vers en haut, puisqu'on monte, et pour monter, on traverse le bois sacré. On avait trouvé cet espace qui est certain, même si ici nous n'avons pas retrouvé, mais c'est tellement symétrique le tout que c'est vraisemblablement cela. Mais on n'était pas sûr pour la datation parce qu'on avait pu très peu fouiller. Les chemins de fer italiens, ça c'est la voie de chemin de fer ici, ont fait une boulette en faisant un passage souterrain sans avertir la surintendance. Ils ont eu un procès. Et très récemment, on a pu vérifier cela par Vanessa Zuboli. Eh bien, tout ça est sévérien, construit sous Sévère Alexandre. C'est une reconstruction globale qui est aussi attestée épigraphiquement du bois sacré avec le Caesarium qui est là. Ce qui est donc extraordinaire, c'est qu'on voit une structure. Ici, nous ne l'avons pas dessinée parce qu'il faut imaginer un mur aussi, également ici, parce qu'on a fait des sondages par là. C'est simplement des couches de terre et augustéennes, mais rien d'autre. Par ici, quelque part, il y a un mur aussi de terrassement, parce qu'on passe de 14 mètres à 11 mètres ici, donc il y a un escalier manifestement, et ici la même chose, ça c'est vérifié par fouille, se passe. Hein. On propose de mettre ici, dans ce portique, le portique sévérien des divi, des empereurs divinisés. Donc on a l'impression que le Lucus c'est déjà ceci, et ça ne m'étonne pas que certaines inscriptions parlent d'un mur, c'est enclos, c'est délimité dans le paysage, comme dit Sénèque. En haut, on ne sait pas, parce qu'il y a un nouveau problème dont je ne vous parle pas, où est passé le bois sacré du IIe siècle, celui des Flaviens, dont nous savons que des constructions se font, notamment ceci, et c'est quand même très bas, et ça a été clairement reconstruit. Et où est le bois sacré augustéen ? Nous avons le niveau augustéen ici, mais peut-être qu'il est sous ce gros temple qui fait quand même plus de 25 mètres de diamètre et une plateforme encore plus grande de 40 mètres presque. Donc là, il y a largement la place pour un temple plus petit. Mais voilà les choses. Donc un bois sacré, ça peut avoir cette forme sous l'Empire. Et l'art à Antelukum, il faut l'imaginer là, ou quelque part ici, qu'il y ait un terrassement ici, un escalier, et devant cet escalier, l'ara, que par là on entre et on sacrifie pour créer, notamment le jour du culte, ceci, la clairière, qui se trouvait en haut, où est construit aussi un temple, comme c'est souvent le cas. Voilà, donc pour... nous avons, vous voyez le contexte qui nous a poussé il y a plus de 20 ans et maintenant à reprendre cela. Et nous avons pris trois exemples. Un premier exemple en Italie qui nous sera présenté par Giovanella Cresci de l'université Ca' Foscari de Venise sur un nouveau bois sacré près d'Altino, Altinum. Le deuxième exemple sera présenté par Véronique Zeck-Materne du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle, de Muriel Boulin de l'INRAP et Marjolaine de Mulder de l'INRAP, concerne un sanctuaire qui est situé près de la villa de Noyon dans l'Oise. Et cette fois-ci, nous avons enfin ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire des analyses palynologiques, quels sont les arbres. Je peux vous dire que là, il y a du figuier, parce qu'un figuier pousse un jour sur le faîte du temple qui est ici. Il y a aussi d'autres arbres dont on nous parle, mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Il faudrait des vraies analyses archéobotaniques. Et enfin, Cécile Doulan, de l'Université de Bordeaux, Centre Ausonius, nous parlera d'un certain nombre de fosses qui pourraient appartenir à Chassenon, dans la Charente, à un bois sacré. Donc nous aurons ces exemples pour réfléchir et discuter avec ses collègues à partir de nos impasses ou de nos acquisitions en Italie ou même dans la banlieue de Rome.